l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Après 1871, l'Alsace-Lorraine est la question de la nationalité.
Pour rester français, nous avons fait tous les sacrifices. Et nous sommes prêts à les faire encore. Ah, je comprends, messieurs, qu'on livre des pierres, des forteresses, des vaisseaux. Mais vous livrez à l'Empire d'Allemagne des populations entières, dont les enfants seront obligés de servir les desseins despotiques de l'Empire d'Allemagne. Et ce n'est pas seulement comme Alsacien, c'est comme Français que j'en souffre pour mon pays. Car, je vous le dis d'avance, il y en a beaucoup qui, au péril de leur vie, échapperont à la servitude que vous leur aurez édictée.
La mémoire républicaine n'a cessé de rappeler la protestation élevée par les députés d'Alsace-Lorraine, on entendait l'un d'eux, Keller, face à l'annexion de 1871. Alors il faudrait sans doute montrer que la réalité fut complexe. Tous les députés de 71 n'étaient pas sur le même point de vue que leur porte-parole. Sur place, des courants locaux allaient en sens contraire. Le mouvement protestataire alla en diminuant. À cette époque, la Troisième République a cherché à caractériser ce qui pouvait différencier la conception française de la nation de la conception supposée des Allemands. En 1882, Renan prononce une conférence fameuse. Du côté allemand, à l'entendre, le primat serait donné à l'origine. C'est par leur passé germanique que les Alsaciens lorrains appartiendraient naturellement au Reich. Renan avait noté l'obstination des députés protestataires d'Alsace-Lorraine à exiger, eux, un vote des populations concernées par l'annexion. Ce qui prime en France, affirmait-il donc, c'est la volonté formulée présentement de vivre ensemble. Le mot « vivre ensemble » date de ce moment clé. L'Alsace-Lorraine d'après 1871, c'est donc un objet pour une histoire régionale qui doit se faire en finesse. C'est aussi un moment décisif pour la définition de la nationalité française.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Alfred Wahl, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Ce qui est bien avec vous, Alfred Wahl, c'est que vous aimez formuler des idées singulières, originales, que vous décapez souvent les visions traditionnelles qu'on peut avoir d'un côté et de l'autre. Vous le prouvez avec une brève nouvelle histoire de l'Alsace contemporaine qui vient de paraître aux éditions du Belvédère. Le Belvédère, c'est une situation en hauteur qui vous convient.
À Pontarlier.
Oui, vous n'êtes pas trop près de l'Alsace, mais vous êtes près de la Suisse, vous êtes près de l'Allemagne et puis de la France demeurée française même après 1871. 1871, pour les Allemands, c'est naturel que les Alsaciens lorrains soient allemands. Ils le sont par leur histoire. Ils offrent cependant une option à ceux qui voudraient demeurer français. Ça, c'est dans le traité de Francfort de 1871. C'est pas si original que ça, dans beaucoup de traités du 19e siècle, était offerte une option.
Ben, très exactement, parce que la plupart des historiens, bon, amateurs,
ça commence.
qui répercutent cette histoire à longueur de temps, ils expliquent que les Allemands ont forcé les Alsaciens et les Lorrains à opter et les ont forcés à émigrer. Alors que c'est tout simplement une disposition traditionnelle de tous les traités du 19e siècle que j'ai passé en revue. Ça commence même avant, puisque les Mulhousiens ont déjà eu l'autorisation d'opter pour la Suisse.
Ce que j'apprends en vous lisant, c'est que le gouvernement français n'incite pas, lui, à l'option pour la France.
Le gouvernement français a simplement tenu à ce qu'il y ait cette disposition, parce que c'était conforme au traité antérieur. Bismarck, au fond, n'aurait même pas trouvé utile, puisque pour Bismarck, qui avait imposé la disposition, enfin qui avait accepté la disposition en 1870 déjà, de l'émigration libre. Donc, comme il l'a dit dans les négociations, chez nous, l'émigration est libre, on peut se dispenser de faire introduire dans le traité ces droits d'option. C'est les Français qui ont insisté pour qu'il y soit, ce qui leur a provoqué d'ailleurs des difficultés considérables sur le plan administratif pour les retrouver tous.
Oui. Mais vous pensez que le gouvernement français n'avait pas envie que trop d'Alsaciens lorrains viennent semer le désordre en France ?
Ah ça, pour revenir à votre question, oui, en effet, bon, le gouvernement français avait deux points de vue. Il y avait le point de vue de ne pas vider l'Alsace-Lorraine de ses habitants. donc de permettre une germanisation à longue portée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comme tout gouvernement, parce qu'à l'époque, on avait quand même un gouvernement ultra-conservateur de tiers, ils avaient une trouille bleue, n'est-ce pas, et surtout les préfets qui avaient la surveillance des territoires, de voir arriver des immigrés en masse, n'est-ce pas, et qui seraient évidemment des causes de désordre. Hein, puisque...
On pouvait opter dans les consulats à l'étranger. Ce que j'apprends en vous lisant, c'est que les plus nombreux optants, ils optent à l'étranger, parce que les Alsaciens-Lorrains, il y en a partout.
Oui, alors, bon, pour résumer très rapidement, parce que c'est un phénomène un peu compliqué et long, il y a eu une possibilité d'option sur le territoire annexé dans les anciennes sous-préfectures, sous le contrôle des Allemands. C'est ce qu'on appelle les optants en Alsace-Lorraine. Ils étaient 160 000 à peu près. Ensuite, il y a le traité de Francfort et les dispositions ultérieures prévoient une option de tous les originaires, c'est-à-dire de tous ceux qui sont nés en Alsace-Lorraine et qui sont répartis à travers tout le territoire français, européen et à travers le monde entier.
Il y a un grand goût de l'émigration des Alsaciens-Lorrains à l'époque, notamment vers les États-Unis. Beaucoup optent dans les villages frontaliers. Parce que là, il pense que l'option pourra se réaliser sans trop de difficultés, sans que les Allemands la freinent. Voici l'examen par un maire, Monsieur Baradel, dans les années 1980, du registre des optants de Wiesenbach. C'est dans les Vosges, à côté de Sainte-Marie-aux-Mines.
Par devant nous, maire de la commune de Wiesenbach s'est présenté aujourd'hui, le 6 juin 1872, Monsieur Claude Jean-Baptiste, contremaître domicilié à Wiesenbach, lequel nous a déclaré, tant son nom que pour celui de sa femme et de ses enfants, se confirmer au traité du 10 mai 1871 relatif aux Alsaciens-Lorrains annexés, qu'il opte pour la nationalité française et attend conserver la qualité de citoyen français ainsi qu'à sa femme, qui se compose comme suit, Benoît Marie-Thérèse, sa femme, Klotz Marie-Joseph Jean-Baptiste, né à Sainte-Marie, le 18 décembre 1863.
Enfin, rassurez-moi, Alfred Wahl, les femmes devaient, en principe, ce n'est pas le cas tellement dans ce registre, pouvoir opter personnellement.
C'est-à-dire que en Alsace et en Lorraine allemande, il y avait le chef de famille qui optait et qui énonçait les membres de sa famille. En revanche, sur le territoire resté français, ceux qui allaient opter donc en France, il y avait une inscription pour chacun des membres de la famille, ce qui a évidemment augmenté le nombre dans les listes. Et alors, ce qu'il faut quand même rappeler là, c'est que c'est par exemple ce cas de Wiesenbach. Il y a eu une incitation de la part du patronat orinois pour que les Alsaciens-Lorrains optent pour la nationalité française. Bon, c'est trop long pour donner les raisons. Mais ce qui fait que les Orinois en particulier, donc les habitants de Sainte-Marie, puisque là il est question de Sainte-Marie, ont opté sur place, souvent, mais pas toujours. Mais en tout cas, ce qu'ils ont allé faire, c'est aller opter de l'autre côté des Vosges, de telle façon à avoir un document véritablement français. Ils croyaient que par là, ils allaient avoir plus de certitude d'être français.
Je disais que cette histoire régionale, parce qu'elle l'est par certains aspects, nécessite beaucoup de finesse. Il faudrait faire une distinction entre les hauts rhinois, plus nombreux à opter, que les bas rhinois. Vous parlez des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ont opté. Beaucoup d'optants ont été de grands entrepreneurs en France. On ne dira pas combien l'extension de la choucroute doit à l'option. Et si on parlait maintenant de ceux beaucoup plus nombreux qui sont restés et étaient donc allemands. Bah, aux Allemands, on doit quand même un certain nombre de choses, parce qu'ils se sont souciés de l'Alsace-Lorraine.
Bah, les Allemands avaient l'intention de faire de ce territoire, le Reichsland, un État modèle, et aussi il fallait séduire la population, de telle sorte qu'ils ont effectivement investi considérablement. D'abord, ils ont monté une université exceptionnellement valeureuse, puisqu'ils ont fait venir les professeurs les plus renommés qui sont arrivés là. Remarquez que les Français, après 1918, ont fait la même chose. Donc, il y a eu une grande université, puis il y a des bâtiments, il y a des bâtiments ministériels, puisqu'il y avait une organisation administrative au niveau du Reichsland. Et en conséquence, il y a eu des constructions incroyables, n'est-ce pas? La préfecture de l'époque est restée la préfecture. Et donc, la ville avait 50 000 habitants au moment de l'annexion. Et en 1914, quand les Allemands la guerre est arrivée, il y en avait 150 000.
Vous parlez de Strasbourg et vous parlez de l'enseignement universitaire. Il faut savoir que l'école primaire obligatoire, c'est en Allemagne plus précoce que l'école primaire obligatoire en France. Vous n'en disconvenez pas ?
Oui, alors on présente toujours l'Allemagne le Reich allemand un peu comme un pays attardé au point de vue de l'évolution de la civilisation, ce qui est tout à fait faux, puisque en 1871, quand les Allemands sont arrivés, ils ont imposé l'école obligatoire, ce qui n'était pas le cas en France, comme on sait.
Et chaque 27 janvier, les écoliers reprennent en chœur un refrain en l'honneur de l'anniversaire du Kaiser de Guillaume II. C'est une manière de préparation au service militaire de 3 ans, extrêmement intégrateur aussi pour les Alsaciens devenus allemands.
Le régime de la dictature que Berlin impose à l'Alsace, traité comme une colonie depuis 35 ans. 35 ans.
Si des gens comme vous ne menaient pas une politique séparatiste, l'Allemagne pourrait peut-être se montrer plus libérale.
C'est ça. Soyez de bons Allemands et on verra si on peut vous autoriser à être de bons Alsaciens.
Nous sommes Allemands depuis 35 ans et nous ne nous en portons pas plus mal. Jamais l'Alsace n'a été si prospère. L'électricité dans les villages, les salaires plus élevés, les lois sociales.
À quel prix ? Au reniement de notre âme.
Vous tombez mal, maman. Il est question de doter l'Alsace d'un parlement régional et d'un gouvernement régional, comme les autres Länder.
Il en faut de la finesse, d'abord pour entendre un chant en l'honneur du Kaiser sur l'air de God Save the Queen, et puis pour comprendre, c'était un extrait du feuilleton Les deux Mathildes, les débats qui avaient lieu à l'intérieur de chaque famille où valaient des positions différentes. L'Allemagne présentait beaucoup d'atouts, la France pouvait être peu à peu oubliée. Les échanges était très fréquent. On imagine des frontières qui sont rigides. Elles étaient poreuses.
Entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire entre le Reichsland, l'Alsace-Lorraine et la France, les frontières n'étaient pas rigides du tout. On pouvait circuler comme on l'entendait, sauf qu'à partir de 1889, après des affaires politiques un peu tendues entre la France et l'Allemagne, bien, il y a eu une introduction de passeports. Mais le fait qu'on introduise des passeports, ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant. Donc on circulait comme on voulait.
Et les compagnies de chemin de fer allemandes frétaient des trains pour que les Alsaciens puissent aller fêter le 14 juillet à Belfort.
Ben, les affaires sont les affaires. Hein. C'était une bonne affaire parce qu'ils allaient pas seulement à Belfort, ils allaient à Nancy, enfin à tous les niveaux. Le 14 juillet, c'était les grands départs. Quoi.
Mais j'imaginais qu'à cette réflexion que je vous faisais, vous alliez répondre encore un argument qu'on aime utiliser du côté autonomiste alsacien. L'argument du train du 14 juillet. C'est un argument qu'on entend souvent dans les histoires régionalistissimes.
Ben, c'est-à-dire que, non, au contraire, c'est les francophiles, n'est-ce pas, qui insistent là-dessus pour montrer que ça existait. Les autonomistes auraient plutôt tendance à dire « ouais, mais c'est du folklore, et puis c'est pas sérieux, il n'y avait pas beaucoup de monde ». C'est pas juste.
Alors, les échanges ont lieu, néanmoins, la distance demeure, et puis la tension peut vite s'installer. Nous sommes maintenant en 1882, c'est une date importante pour de multiples raisons. Peut-être parce que un certain Gaston Villemer avec un certain Lucien Delormel ont commis cette chanson où on voit une nourrice, Lorraine, rester fidèle à la France, refusé à un officier de Uhlan d'allaiter un bébé allemand orphelin. On ne peut tendre à une bouche allemande une mamelle française.
Près de la nouvelle frontière, un officier s'est arrêté à la porte d'une chaumière. Il frappe avec anxiété une femme dont la mamelle allait un gentil chérubin. Ouvre en demandant
« Qui m'appelle ?» et voit l'uniforme prussien.
« Femme !»
dit l'officier.
« Écoute ma prière pour lui donner ton lait. Je t'apporte un enfant. Dis-moi si tu consens à lui servir de mère. Moi, je suis un soldat du pays allemand.
J'avais un fils,
dit l'Alsacienne,
blond chérubin comme le tien. Mon homme et moi tenions la plaine devant tes régiments prussiens. Quand tes soldats sous le carnage mirent le feu à mon hameau, et sans pitié pour son jeune âge brûlèrent l'enfant dans son berceau. Va, passe ton chemin, ma mamelle est française.
Ces garçons chanteront plus tard la Marseillaise. Elles ne vont pas sonner au fils de l'Allemand.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Alfred Wahl, auteur notamment de La Nouvelle Histoire de l'Alsace contemporaine, c'est un petit livre précieux aux éditions du Belvédère, la question de la nationalité telle qu'elle est posée par l'Alsace-Lorraine après 1871, c'est notre thème. 1882, il y a donc cette chanson qui dit au fond que le lait allemand est impur, ça veut dire aussi que le sang allemand est radicalement différent du sang français, mais d'autres, à la même date, pose la question à une autre altitude. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de la fameuse conférence d'Ernest Renan à la Sorbonne en 1882, dont les politiques et les intellectuels depuis une vingtaine d'années à Paris, en tout cas, ne cessent de nous rebattre les oreilles. Illustrissime professeur au Collège de France, Ernest Renan pensait qu'il fallait garder l'union intellectuelle entre la France et l'Allemagne, mais la guerre de 1870 lui a paru une catastrophe dont il fallait aussi tirer les enseignements. Alfred Wahl.
Oui, alors, le problème de Renan, c'est le personnage emblématique de cette question d'Alsace-Lorraine, parce que c'est lui qui a donc assuré, présenté cette définition de la nation. Selon lui, la nation est composée d'individus qui veulent vivre. D'ailleurs, l'expression « vivre » figure dans son discours.
Vivre ensemble.
Vivre ensemble.
Le vivre ensemble,
qui cherche à vivre ensemble, qui accepte de vivre ensemble. Évidemment, cette définition correspondait à la situation des Alsaciens qui étaient de langue germanique, dialecte alsacien, et donc, en principe, normalement, n'étaient pas français. Alors que c'est pour cette raison que lui, il a fait cette définition, parce qu'il avait montré par la protestation qu'il voulait être français. Donc cette définition,
il choisissait au-delà de la langue et au-delà du passé.
Voilà.
Alors parce pour Renan, il y aurait une définition allemande de la nationalité qui serait fondée sur les origines, sur le passé.
Alors, c'est même pas la définition de Renan, c'est les Allemands eux-mêmes, puisque Renan correspondait avec des collègues allemands. C'était l'époque où les universitaires allemands et français avaient des relations très étroites, et bien d'autres personnes ont été concernées. Alors, Renan avait des relations avec Strauss, avec Bommsen, qui ont répondu à sa définition en disant que non, la définition de la nation, c'est que la nation est composée d'individus qui ont la même langue, et qui sont dans un territoire bien précis.
Alors, vous savez ce que leur répondait Renan, puisque vous voulez faire de l'archéologie et que vous dites que c'est la culture germanique qui définit la nationalité allemande, mais avant la culture germanique, il y a eu la celtique, et puis avant les celtes, il y a eu les hommes des cavernes, et avant les hommes des cavernes, il y a eu des orangs-outans. Si on suivait votre conception archéologique, disait Renan, eh bien il faudrait défendre les droits des orangs-outans, injustement dépossédés par la perfidie des civilisés.
C'est très bien.
Alors pourquoi d'après vous, les hommes politiques reprennent-ils sans cesse maintenant cette question ?
La question se repose à tout instant, notamment dans les temps actuels, puisque toutes les populations, la France ayant toujours été un peu d'immigration, et donc le problème se pose de savoir comment intégrer ces... Donc la définition de Renan correspond très bien à ce qu'on cherche à faire avec ces populations nouvelles.
Parce que nous sommes dans un climat d'affrontement ou de questionnement, et c'est à ce moment-là que la définition de la nationalité s'impose le mieux. On va faire entendre à nos auditeurs, ainsi qu'à vous, Alfred Wahl, un petit florilège. Vous reconnaîtrez Nicolas Dupont-Aignan, Martine Aubry, Alain Finkielkraut, et puis après, quelqu'un dont vous connaissez très bien la voix.
Vous savez, il y a une belle définition de la nation par Renan, qui dit que c'est le sentiment de vouloir vivre ensemble.
Voilà pourquoi Ernest Renan écrivait à propos de la nation française une très belle phrase. Il disait, si elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent, par un fait tangible, le plébiscite de tous les jours.
Une nation est une âme, un principe spirituel, disait Renan dans sa célèbre conférence. Deux choses qui n'en font qu'une constituent cette âme et ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent.
J'ajoute que l'identité de la France, depuis 1789, se définit comme une identité républicaine, sur la base de valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Il n'y a pas lieu de revenir constamment sur cette définition, sauf à vouloir rouvrir le débat tranché par Renan sur les deux conceptions de la nation, la conception citoyenne et la conception ethnique.
Alors là, c'était
Jean-Pierre Chevènement.
Oui, non, je disais que vous le connaissiez bien. Et avant, c'était Alain Finkielkraut. Alors, Alain Finkielkraut met peut-être davantage l'accent sur l'importance que doit garder le passé. Renan disait qu'on pouvait l'oublier aussi, le passé. Vous savez ce qu'il a fait graver sur son épée d'académicien, il est entré sous la coupole la semaine dernière, « La République, virgule, ce royaume de France ». C'est une citation de Charles Péguy. Tandis que chez Jean-Pierre Chevènement, l'insistance est mise sur la synthèse entre la République et la nation. Et c'est ça qui s'opère dans ces années de la Troisième République, réfléchissant sur l'Alsace-Lorraine.
Oui, c'est exact, parce que la plupart des observateurs républicains de l'époque associent... la nation à la République, et pas seulement à l'idée nationale abstraite. Donc, Chevènement, on le sait, est très attaché à l'idée de République, de nation dynamique. C'est pour ça qu'il l'associe. Il ne voudrait pas qu'il y ait une nation qui ne soit pas démocratique et républicaine. Bon, c'est une conception un peu plus progressiste, disons, par rapport aux autres qui ont précédé. Mais je crois qu'il faudrait revenir aussi pour dire que la conception allemande a perduré également, puisque jusqu'en 1899, la nationalité allemande était accordée à des populations vivant sur place, parlant allemand. Les immigrés étaient des Gastarbeiter, c'est-à-dire des citoyens invités, mais qui n'avaient pas la nationalité allemande. L'Allemagne n'était pas un pays d'immigration. Enfin, ça nous éloigne un petit peu, jusqu'à 1999, où des nationalisations, des naturalisations ont été accordées.
Mais moi, je voulais quand même que vous disiez un mot d'une étape intermédiaire qui a son importance pour clore notre discussion. C'est celle de 1918, 1919, traité de Versailles, 1920, application du traité de Versailles, où on va voir que la conception républicaine qui se veut ouverte de la nationalité n'est pas nécessairement mise en application quand il s'agit de réintégrer les Alsaciens-Lorrains, j'espère que nos auditeurs qui ne sont pas d'Alsace-Lorraine nous suivent, qui étaient devenus allemands entre 70 et la Grande Guerre. On les réintègre. Et comment ?
Oui, alors c'est un problème très polémique pour les autonomistes, évidemment, de dire que la France s'est comportée beaucoup plus durement que l'Allemagne en 1871, il faut bien le reconnaître. Mais il faut quand même, avant d'exposer peut-être dans les détails si on a le temps, c'est qu'il y a eu 14-18. Et 14-18, l'état-major allemand a pris le pouvoir en Alsace. Et ça a été une dictature militaire extrêmement dure, avec des expulsions, des emprisonnements. Il ne faut pas l'oublier. Et ça explique ensuite la dureté de la réaction française, avec les expulsions d'Allemands. Ensuite, la classification de la population.
Attendez, la classification de la population. Parce que pour la réintégration, vous le dites clairement, on institue des commissions de triage et il y a des cartes d'identité de plusieurs catégories. Et pour avoir une carte A barrée de tricolore, il y a intérêt à avoir des parents et des grands-parents. Nickel.
Nés en Alsace ou en Lorraine. Hein.
Ouais.
Parents et grands-parents.
Ouais.
Ça conférait la carte A. Et puis, avec ça, on était réintégré automatiquement.
Et puis, il y avait une deuxième, une troisième,
oui, une quatrième
catégorie. On ne va pas entrer dans le détail.
Non, mais parce qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes, hein,
ouais,
avec les Allemands. Comme vous disiez, la circulation, c'est bien le problème.
Et certains Alsaciens lorrains qui étaient Allemands ont vu revenir les optants un peu comme des revenants. On parle du présent avec cette évocation des certificats de réintégration. Figurez-vous que très souvent, et c'était encore le cas dans les années 70, 80, 90, peut-être encore aujourd'hui, il faut, pour obtenir son renouvellement de papier d'identité quand on a une origine complexe, produire copie de ces certificats de réintégration. Et ça en a posé des problèmes. Voici le témoignage de Monsieur Hausser.
Je suis né à Ingersheim, près de Colmar, en 1908. Fait donc partie de cette catégorie d'Alsaciens qui sont soumis à l'obligation de justification de nationalité en vertu du traité de Versailles. J'ai fait mon service militaire que j'ai terminé comme sous-lieutenant de réserve. J'ai été naturellement remobilisé en 1939. J'ai fait toute la guerre. Ayant ainsi fait mon devoir de Français, ayant comme employé et fonctionnaire de l'État eu à justifier et à subir un certain nombre de tests et de contrôles pendant plusieurs années, j'ai estimé que je n'avais plus à justifier de ma nationalité française et j'ai par la suite, et pour une question de principe, refusé formellement de demander mon certificat de réintégration. J'ai obtenu mes papiers, mes passeports, parfois non sans difficulté, mais je les ai obtenus. Et je pensais bien que ça se terminerait ainsi quand l'année dernière, à 62 ans, j'ai à mon tour dû me soumettre à ces formalités que j'estime vexatoires. Et pourquoi ? Parce qu'une de mes filles, passant une licence, avait besoin de mon certificat de nationalité, donc de réintégration, pour compléter son dossier scolaire. J'ai obtenu ce certificat au bout d'une journée et demie de coups de téléphone et de démarches directes. À mes quelques titres que j'ai collectionnés au cours d'une carrière déjà assez longue, je peux donc ajouter celui dont je ne me vante point de réintégrer tardif.
C'est arrivé à M. Zeller, qui a été président de la région Alsace. Vous avouerez quand même, Alfred Wahl, que parfois notre nationalité ouverte, telle que nous la concevons, elle est filtrée au guichet des administrations.
Je pense que c'est simplement qu'on a oublié peut-être de mettre fin à cette pratique et que l'administration continue de fonctionner selon les règles habituelles. C'est vrai que par-ci, par-là, mais pas pour tout le monde, il y a eu ces demandes qui étaient complètement absurdes. D'ailleurs, en général, les gens ne répondaient même pas.
Une circulaire, en principe, a mis bon ordre à cette question en 1993. Il faut que je vous annonce que nous allons restituer des séances parlementaires. Ce sera le lundi 8 à 20h au Vieux Colombier. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, 01 44 58 15 15 à 20h avec Laurent Nutrella, avec Michel Favori, avec Bruno Raffaelli et Loïc Corbori. Merci à vous Alfred Wahl, votre dernier livre aux éditions du Belvédère. Remerciements aussi à Fabrice Desmaz et à Jacques Sigal pour la technique et la réalisation.